Bonjour, vous écoutez Nouvelles Perspectives, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous.
Nous recevons Gauthier, qui est notre expert du jour.
Bonjour tout le monde.
Gauthier, tu as une société de recherche et développement aux États-Unis, tu enseignes l'intelligence artificielle et je t'ai invité déjà parce qu'on se connaît de longtemps. Moi, je t'ai rencontré il y a 10-15 ans, un truc comme ça. Et on a échangé un petit peu, je me suis dit, tiens, cette personne est intéressante. C'était bref, mais je garde un très bon souvenir de toi. Et à l'époque, tu avais une chaîne d'anticipation YouTube, une chaîne YouTube d'anticipation et de prospective qui s'appelait Après-demain et que tu as fermée depuis. Et à présent, tu travailles beaucoup dans l'intelligence artificielle et tu as créé une chaîne qui s'appelle Le Bar à Prompt. Je suis toutes les émissions, sauf les deux dernières, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je te promets, ce week-end, je vais les regarder. Gauthier, comment vas-tu ?
Je vais bien, j'ai des journées de trépanée, donc pour de vrai, je suis épuisé, mais absolument ravi d'être là, donc ça va. Je suis très content et je vais très bien. Et merci de me recevoir.
C'est quoi ta formation initiale ? Qu'est-ce qui est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler comme tu le fais aujourd'hui sur l'IA, à enseigner, à diriger une boîte ?
Alors là, ça va être drôle parce que c'est le genre de question qui, en général, quand on me pose ça, c'est un peu rocambolesque. En fait, bon, en formation initiale, j'ai le baccalauréat et rien d'autre. Je pense même que si le moi de maintenant avait 16 ans, le moi de maintenant aurait écouté la voix que j'avais dans ma tête à 16 ans en disant « Non, mais arrête l'école à 16 ans, légalement, t'as le droit. » Pas parce que l'école, c'est pas important, juste parce que je pense que j'étais pas calibré pour ce genre de formation, c'est-à-dire que je prenais vraiment trop de temps à apprendre à l'école. Et en fait, j'étais contre-productif parce que tu sais, quand tu vois un truc que tu apprends en 30 secondes et puis que les autres en face mettent 5 minutes à apprendre, du coup, toi, tu as perdu ton attention pendant les 5 minutes suivantes parce que tu te dis « Bon, ça tourne en rond ». Du coup, après, tu enchaînes entre des périodes d'attention courtes et des périodes d'inattention à faire autre chose. J'ai vite compris que c'était mieux pour moi de dessiner en cours ou de lire des bouquins pendant les cours. Et puis, donc, du coup, c'est pas le cours en lui-même. C'est que des fois, ça allait un peu lentement. D'autres fois, c'est parce que ce serait naïf de croire que ça se fait sans compromis. Il y a d'autres fois où, au contraire, j'allais plus lentement que la moyenne et où j'aurais eu besoin qu'on prenne le temps. Et donc, finalement j'ai pas été très à l'aise avec les formations scolaires de ce point de vue-là. Donc, je me suis souvent, moi, formé, quel que soit le sujet, en apprenant le métier, en faisant un business. Donc, je montais un business, j'en profitais pour apprendre en même temps, m'entourer de gens très intelligents et brillants sur ce domaine-là, progresser à leur contact, puis passer au business suivant. Et voilà, donc dans ma vie, j'ai eu plein de métiers différents, mais il y a eu des moments où, par exemple, j'ai voulu vraiment mieux cuisiner. Donc, j'ai tenu des restos, j'ai foutu les pieds dans un food truck, j'ai vendu des gaufres dans la rue, j'ai fait le traiteur. Bon, voilà, et puis j'ai même bossé en pâtisserie. Et puis, à la base, c'était uniquement parce que je voulais être un meilleur cuisinier. Et puis, pareil, il y a des moments où j'ai voulu être un meilleur prof d'arts martiaux, quoi de mieux qu'en faire un business, voilà, et ainsi de suite. Donc, donc comme formation initiale, c'est assez simple. J'ai monté mon tout premier business avec un vieux copain à l'époque. C'est même marrant d'appeler ça un business parce que j'avais 16 ans et, si tu veux, le prix qu'on était payé à l'heure pour faire des vidéos pour des clients associatifs était... on avait l'impression d'être les rois du pétrole par rapport au babysitting, alors qu'en réalité, on se faisait absolument plumer par rapport à l'argus du métier, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et on aimait faire des vidéos, puis on faisait évidemment des films des pitreries ensemble à l'époque. Donc voilà, on a commencé à bricoler ça quand on avait 13-14 ans, et puis on a commencé vraiment à faire des petites prestations de temps en temps en étant payé à partir de 16 ans. Et c'est vrai que du coup, bon, je me suis dit, tiens, j'irai bien dans cette industrie-là. Et donc j'ai fait une école de cinéma en me disant, c'est bien, ça va me donner de la technique. Et en fait, si tu veux, j'avais à cette époque-là, j'étais dans une école qui s'appelle l'ECAR à Paris. J'ai fait la première année. C'était des gens sympas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, par contre, je me suis rendu compte quand même d'un truc. C'est que j'avais trop de boulot à l'extérieur. Et en fait, j'avais rencontré des gens sur d'autres films que j'avais fait. Il y en avait un qui était un rappeur qui m'avait demandé de lui faire un clip, puis ça m'avait fait une réputation qui faisait que j'avais besoin de faire plus de clips. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens assez amusants de ce côté-là. C'est-à-dire que si tu veux, l'école de cinéma, c'était encore un peu le Far West. C'est-à-dire que les types disaient, écoute, tu peux te pointer le vendredi soir pour nous piquer du matos et le ramener lundi matin. Tant qu'il est en bon état et que tu laisses un chèque de caution, ça ira. Heureusement, je n'ai jamais eu besoin de consommer le chèque de caution parce que je n'aurais pas eu les moyens.
Tu n'avais pas là, ce n'était pas provisionné. Okay.
Mais du coup, tu vois, c'était open bar. J'étais un peu comme une mère de famille obèse au Black Friday dans ces vidéos qu'on voit aux États-Unis qui courent pour une PlayStation. Donc, j'arrivais au magasin et je courais genre, tiens, donne-moi trois projecteurs, donne-moi une blonde, une mandarine, le néon là aussi, tiens, puis le chariot de traveling. Et donc, je repartais avec plein de matos chargés sur deux bagnoles avec des copains. Puis on tournait des clips pour des amis, donc on faisait des prestations et puis petit à petit le revenu montait. Et en fait, j'avais tellement de travail qu'à la fin de la première année, on m'a confié un premier long métrage comme directeur de production par réseau interposé. Ça a été passionnant parce que, si vous voulez, j'ai eu tellement de boulot que les mecs de l'école m'ont dit « Mais pourquoi tu reviendras en deuxième année ?» Le rêve des gens qui font une école de cinéma, c'est de trouver du boulot à la sortie parce que c'est quand même un business dur. Bon, t'embête pas. Voilà. Donc, j'ai commencé par du cinéma, mais j'ai jamais fini l'école. J'ai fait une première année que je détestais pas. Et la deuxième année, j'ai été inscrit, mais j'y suis quasiment pas allé, pas par fainéantisme, mais vraiment parce que j'avais pas le temps. Et à côté de ça, un deuxième business secondaire qui est celui probablement par lequel... qui est plutôt, je pense, celui par lequel tu me connaissais. Enfin, on s'est rencontrés par un contact commun à l'époque.
Yes.
Mais quand j'avais 16 ans, j'ai commencé aussi à enseigner les arts martiaux pour des ados et j'ai commencé à lire des bouquins, notamment d'un type qui s'appelait Henri Play, qui aimait bien ouvrir un peu les horizons d'un pratiquant d'arts martiaux en disant « Tiens, peut-être aller étudier le coaching, aller étudier l'ostéopathie. » Bon, bref, développer votre compétence en arts martiaux en faisant d'autres trucs. Et donc, j'ai commencé pour être un meilleur prof d'arts martiaux, j'ai été petit à petit formé en psychothérapie, dans des méthodes de développement personnel. J'ai réussi à m'incruster dans un institut de médecine légale pour disséquer des Maccabées. J'ai fait des formations d'ostéopathie à l'époque où le diplôme n'était même pas reconnu, donc le niveau était très en dessous d'une école d'ostéo, mais j'ai fait ça aussi à une époque. Je suis devenu prof de yoga. Donc voilà, il y a eu deux carrières en même temps, et de temps en temps, la carrière développement psychocorporel était la principale, de temps en temps, la carrière plus gestion de projet était la principale, mais en gros, le cinéma a très vite dérivé vers la gestion de projet. Donc j'ai fait du jeu vidéo et ça m'a éclaté. Et en fait, dès qu'on me proposait un nouveau projet ou une entreprise, j'avais le côté un peu boulimique de dire oui à tout, avec, à mon avis, un choix irraisonné dans certains erreurs de jeunesse, de choisir certains trucs par défaut, alors que j'aurais pu dire non, mais c'est la peur de louper l'incroyable projet supplémentaire. Bon, c'était de l'excitation adolescente encore quand j'avais 20 ans.
T'as un profil très FOMO, quoi.
Oui, à cette époque. Et c'est intéressant de voir qu'en vieillissant, le mois de 40 ans, parfois des petites victoires du style, le mois de 19 ans serait totalement tombé là-dedans et n'aurait pas osé dire non. Donc voilà, je suis content de ça. Au final, si tu veux, je me suis éclaté à faire ces trucs-là, vraiment, mais le milieu du cinéma était un peu vomitif. Je l'ai détesté au bout d'un moment. Déjà parce que... J'ai eu un contrôle fiscal dont je suis sorti la tête haute. Il ne manquait pas un centime dans la caisse. Mais malgré tout, le truc était d'un tel niveau de stress que, si tu veux, ça m'a épuisé. Je trouvais ce milieu vomitif avec des gens qui, parmi les techniciens, étaient des gens qui se racontaient être des ouvriers et des saltimbanques. C'est-à-dire, si tu veux, c'était principalement de la sociologie de gens issus de milieux bourgeois qui avaient des parents qui vivaient bien leur vie. Et moi-même, je veux dire, j'ai des parents qui sont médecins, donc je viens de milieux bourgeois de classe moyenne, je m'en fous de le dire. Pour moi, c'est tout à fait... On est là où on est et ça n'a rien d'honteux. Mais j'étais entouré de gens qui venaient du même milieu social que moi, mais qui, par contre, se racontaient qu'ils ne venaient pas de ce milieu-là et qui faisaient tout, en fait, pour avoir l'air d'être plus pauvres qu'ils ne l'étaient et pour dire « oui, on est des saltimbanques, on sait ce que c'est la vie dure ». Non, mec, ferme-la.
On en rappelle d'autres.
Voilà, t'es payé 1500 euros au tarif syndical du CNC pour être déménageur sur un plateau de cinéma. Ne raconte pas que t'es ouvrier au même titre qu'un clando qui fait des carrelages au black, c'est pas vrai. Et donc, les techniciens me sortaient par les trous de nez et les collègues producteurs, réalisateurs et tout me sortaient tous par les trous de nez aussi. En fait, c'était un milieu tellement népotiste et tellement bien pensant sur le type de film que tu peux faire et puis sur le système de financement à la française et sur la bureaucratie que Bah, en fait, j'avais plus la flamme. J'adorais faire des tournages et je regardais jamais ma montre en faisant du 5h-22h. Alors que, bah, à force, quand je faisais plus de paperasse que de films, je finissais par détester ça. Et donc, on m'a proposé d'autres trucs. Je me suis dit, tiens, bah, un jeu vidéo, c'est un peu comme un film. Ah, bah, tiens, bah, finalement, un food truck, c'est à peu près comme un film, mais en plus simple et avec pas de caméra, mais du matériel. Et en fait, bah, j'étais formé à la gestion de projet sans m'en rendre compte. Et puis, alors, la plupart des gens qui venaient dans le cinéma étaient plutôt des gens, si tu veux, qui se barraient du cinéma, enfin, qui se barraient de leur métier pour faire du cinéma. Moi, c'est le contraire. Je me suis barré du cinéma pour faire du corporate. J'ai eu des gens qui. J'avais un collègue qui commençait à faire du marketing. Et donc, c'était le moment où on comprenait qu'on pouvait foutre en l'air l'algorithme de Google pour faire du référencement naturel, du SEO en 2009. Et donc, notamment, on avait des cash machines comme ça. On avait une agence de voyage et on vendait des. On faisait des pages de référencement naturel pour vendre des thalassothérapies en enchérissant sur les mots-clés mal au dos et puis en plus en écrivant des tas d'articles. Le SEO qu'on faisait a évidemment bien changé depuis, mais si tu veux, du coup, on faisait ça. Et il m'a dit, bah tiens, et puis tant que tu y es, tu dirigeras la section vidéo, tu feras ça. Et puis bon, du coup, je travaillais avec ce collègue-là et son fils, qui était un grand ami à l'époque. Et du coup, bon, on faisait des tournages, mais je me marrais beaucoup plus à faire ça finalement, parce que les gens étaient beaucoup plus sympas. Je me marrais à faire du SEO. Et puis, bon, après, j'ai commencé à faire du marketing, de la business intelligence avec ces collègues-là. Et après, j'en ai eu marre complètement. Donc, j'ai arrêté tout ça et j'ai eu plein de jobs. Bon, le développement psychocorporel a été un job à un moment, donc j'ai été prof de yoga, prof d'arts martiaux, j'ai fait de la thérapie, ce genre de choses.
Moi, je t'ai connu pas loin d'une école de kung-fu, là. Je crois que
Oui.
vous sortiez de...
Exactement, oui, voilà. Et bon, bref, donc, voilà, il y a eu ça, et donc les carrières se sont un peu entremêlées, et ça nous amène à l'IA, mais en gros, si tu veux, voilà, tout ça était un peu amusant. Et il y a eu des moments où même j'ai fait d'autres jobs improbables, simplement par pur amusement. Alors j'étais prof de piano des fois j'ai fait d'autres trucs rigolos. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas très
T'as
important.
enseigné à plein de trucs dans ta vie.
Ouais, il y a eu
Ouais,
l'enseignement, ouais. J'ai même été prof de maths pour l'éducation nationale. Ouais.
magnifique. Avec juste le bac, c'est beau.
Oui, alors franchement, vu le niveau de dèche et de difficulté dans lequel ils se trouvaient, en fait, ils étaient là. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on a que lui sous la main. Donc, à la base, j'y suis rentré comme professeur de gestion du stress pour des paramédicaux. Et ils ont dit, mais attends, mais tu sais les maths un
C'est
peu,
pas le
toi?
but du parcours, c'est improbable.
Voilà. Bon, non, c'est assez simple, en fait. C'est de la pure sérendipité. Chaque rencontre en amène une autre. Donc,
Ouais, totalement,
À un
j'adore.
moment, j'étais prof de yoga dans une association à Sarcelles. J'étais ravi. Je bossais dans le 95. J'adorais ça. J'étais avec des dames qui étaient passionnantes. J'en ai pleuré quand j'ai dû arrêter. Elles m'ont ému aux larmes en me laissant des mots très gentils en me remerciant comme professeur pendant toutes ces années. Et puis bon, il y en a une d'entre elles qui m'avait fait rentrer dans un Greta, tu vois, un organisme de formation. Et ce Greta-là, que je ne nommerai pas, avait besoin aussi de professeurs de mathématiques et ils étaient en galère. Ils ont dit, bah, on n'a pas le droit de t'engager parce que t'as pas de. Oui, mais par contre, en auto-entrepreneur, je crois qu'il y a un vide juridique, on a le droit. Est-ce que vraiment tu t'y connais en maths? Ok, bon, du coup, j'étais professeur de maths pendant 9 mois là-bas, pour des
Ah,
adultes.
mais
Donc
je
voilà.
vois.
Et donc en 2015, j'avais fait une chaîne qui s'appelait Après-demain à l'époque,
Ouais.
qui manquait de
Oui.
maturité et de centrage. C'est pour ça que je l'ai arrêtée.
Dont j'ai été fidèle spectatrice à l'époque.
Quelque part, c'est la même version en plus mature, mais bon, bref, j'ai fait cette chaîne Après-demain et en fait, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'IA, plutôt via la convergence NBIC, c'est-à-dire la convergence entre les sciences cognitives, les nanotechnologies, les biotech et puis l'intelligence artificielle, l'informatique, tout ça. Donc, je m'intéressais beaucoup au mouvement transhumaniste. Je voyais que c'était un beau merdier entre les gens qui ne connaissent pas ces mouvements et qui disent bah, il y a les transhumanistes, puis ceux qui connaissent, bah, il y a des nuances, évidemment. J'ai découvert qu'il y avait des transhumanistes très libéraux, des transhumanistes capitalistes sans foi ni loi, des transhumanistes presque communistes qui s'appellent des technoprogressistes. Alors, c'était drôle d'ailleurs parce que tous, à un moment, ont tous donné à ma chaîne parce qu'il y avait tellement peu de gens qui parlaient de ces trucs-là que bah, ils ont tous fait des donations. Puis à chaque fois que je me mettais à taper sur le grand impensé de leur parti politique, je me retrouvais à perdre mes donations. C'était très drôle. Voilà, donc
Bien joué.
c'était amusant. Mais heureusement, j'en dépendais pas pour vivre parce que c'était une chaîne YouTube.
Mais suivre tes aventures et tes pérégrinations, c'est suivre comment dire, une épopée existentielle, quoi. C'est toujours très intéressant.
Bon, voilà, mais en tout cas, il s'est passé ça. Et puis après donc, comme je m'intéressais à ça, je suis aussi allé dans plein de labos d'éthique différents, plein d'associations. Et notamment, je suis tombé sur quelques labos d'IA, un peu amateurs, avec principalement comme sociologie de l'ingénieur dépressif. On est en 2015. Les images générées par l'IA, c'est encore dégueulasse.
Ouais.
C'est-à-dire que on a du deep dreaming, tu sais, qui est l'image un peu dégueu. Je vais vous montrer ça à l'écran, mais en gros, c'est pas de l'image très sympa à regarder. Tiens, je vous montre ça, voilà, regardez, c'est marrant d'ailleurs, le débat est très souvent en IA pollué par les intellectuels totaux, c'est-à-dire que les intellectuels totaux, j'ai rien contre eux, mais c'est des gens qui ont un avis sur tout. Vous savez, genre un Michel Onfray ou un machin, un YouTuber qui a des avis sur la guerre en Russie, sur les médias, sur n'importe quoi, et donc bah, il va parler d'IA, mais il n'aura peut-être pas le niveau pour en parler. Et donc, quand le deep dreaming est sorti, il y en a qui ont écrit « Ah oui, ça y est, l'IA, elle rêve la nuit ». Non, il y a juste marqué « Dream » dans le titre, calme-toi. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que tu voyais les premières hallucinations. Tu vois, par exemple, là, regarde, « Ah oh, tiens, c'est marrant, il y a des filles en bikini et des furries qui font de la muscu, je ne comprends pas ce que me raconte l'algorithme de Google. » Mais regardez, là, je demande à… Enfin, on voit le deep dreaming, là, il vous montre, tu vois, les premières hallucinations.
Mm-hmm.
Et tu vois, on voit qu'il ne peut pas s'empêcher de mettre un morceau de biceps. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'hallucinations, on pourra en parler, mais c'est ce qu'on appelle une hallucination de cohérence, c'est-à-dire que ce sont deux éléments qui, statistiquement, ont des chances d'être ensemble. Donc, du coup, l'intelligence artificielle a tendance à les foutre ensemble, et c'est pour ça que parfois, bah, tu dis à l'IA, vas-y, fais-moi une fille en train de camper, et dans la tente, il y a un feu. Le feu et la tente sont censés être ensemble, mais pas dans la tente, mais l'IA n'a pas compris ce qu'elle fait. Et bon, voilà, donc ça, c'est un type d'hallucination, mais à l'époque, le deep dreaming, c'est encore un peu dégueu. On se dit qu'on va en avoir encore pour 30 ans avant de faire des IA qui peuvent te parler consciemment. On est 3 ans avant la publication qui a tout changé chez Google et qui a lancé ChatGPT. Et tous les ingénieurs sont, mais dépressifs, ceux à qui je parle. C'est des mecs qui, en fait, se sont lancés dans l'IA. C'est des gens de la génération, fin de génération Y, début de génération Z. Ils se lancent dans l'IA avec l'objectif de faire des robots conscients, de la science-fiction, un truc vraiment…
Ils sont immédiatement partis très loin.
J'étais sur des gens qui me faisaient surtout parler d'éthique. Et en fait, moi, je m'amusais comme un petit fou à parler d'éthique. Et finalement, les ingénieurs étaient un peu tristounets parce qu'ils pensaient faire des robots conscients. Et la réalité, c'est qu'ils faisaient plutôt que des algorithmes de solvabilité pour les banques ou ce genre de trucs. Donc, ça les agaçait passablement. Voilà. Et ben moi, j'ai commencé du coup à me remettre à coder un petit peu, à faire du développement. Alors, je suis toujours un piètre développeur. Je suis très mauvais là-dedans. Mais j'ai toujours eu envie de taquiner un peu le code de temps à autre. Donc, j'y reviens parfois sans avoir de niveau, mais au moins je comprends ce qu'il y a écrit quand je vois des publications, quoi. Et donc bon, c'était passionnant parce que je me suis intéressé à l'IA comme ça, et plus tard, en fait, on m'a relancé beaucoup en me disant, mais tiens, est-ce que vous pouvez nous aider à faire des formations pour apprendre aux gens à parler à une IA? Et c'est drôle parce que, si tu veux, finalement, pour prompter, le mélange entre l'école de cinéma avec des cours de scénario, un peu de sciences humaines avec la psychologie, plus le business, et avoir fait un tour dans un milieu d'intelligence artificielle, bon, finalement, ça faisait un profil pas dégueulasse. Bon, et j'avais des lacunes techniques à plein d'endroits, et il y a encore plein d'endroits où je vois que j'ai des lacunes techniques. D'ailleurs, en fait, la plupart de mes potes qui bossent dans l'IA, même comme ingénieurs, disent qu'ils ont des lacunes tellement il y a de papiers qui sortent chaque semaine. Mais en gros, oui, voilà. Quelque part, je comble mes lacunes techniques en me passionnant pour ce truc-là et en étant payé pour le faire. Donc, c'est plutôt agréable.
Tu m'étonnes. Est-ce que ton entreprise, ta boîte aux US, elle a un rapport avec l'intelligence artificielle ou pas?
Oui, bien sûr. En 2019, je voulais devenir, je voulais bosser pour Duolingo, et j'ai toujours eu un plaisir à apprendre les langues, et je vois une annonce pour Duolingo qui dit on veut un type dont le français est la langue maternelle et il doit parler au moins 5 autres langues, et ce serait bien s'il avait l'habitude de l'enseignement et de la production vidéo. Alors je me dis, bon, ça te check des cases. Il y avait marqué le candidat idéal aurait un doctorat de sociolinguistique. Je n'avais pas, mais je me suis dit, allez, vas-y, ça passe, j'essaye.
Au talent, il y a moyen.
Non, mais il y a marqué un candidat exceptionnel aurait. Donc, je me suis dit, bah, c'est optionnel, c'est apprécié, mais pas obligatoire. J'ai dit, allez,
j'y vais. Tu avais bien raison. La RH en moi dit que ça vient chez des candidats.
Donc, j'ai essayé, et puis... Je savais qu'ils étaient, je savais que ces gens-là étaient backés par Google chez Duolingo, et j'avais un pote qui avait été ingénieur chez Google, François-René Rideau, un grand ami, un très très grand ami de longue date, qui était à mon mariage, qui est mon associé sur cette société. Et donc lui, il me dit, bah, écoute, je ne sais pas s'ils t'engageront, parce que Duolingo et Google, c'est un peu différent, mais en tout cas, moi, ton CV m'intéresse parce que je cherche quelqu'un. Alors, au début, je pensais qu'il voulait juste bosser avec moi. Et en fait, non, il cherchait un cofondateur. Il m'a fait l'honneur d'être son cofondateur sur une société qui s'appelle Moon aux États-Unis et qui est toujours active. Et on a commencé par faire des langages de programmation plutôt dans le monde des crypto-monnaies pour sécuriser des contrats financiers. Okay. On a développé d'autres pièces de technologie, principalement sécuriser des systèmes qui buggaient. Donc, on a fait plein de systèmes de techno. On ne fait pas trop de marketing ou choses comme ça. La plupart des gens qui bossent dans le secteur crypto ou dans ce truc-là, en s'y mettant, sont soit développeurs, soit dans le marketing. Nous, on est sur un sujet à part. On fournit vraiment des solutions business qu'on développe quand il y a des bugs un peu graves qui pourraient faire perdre du pognon à des gens. Et puis, bon, on a développé un autre truc. Peut-être que vous connaissez un logiciel qui s'appelle Salesforce. Une de nos sous-entreprises à Web3 Enabler fait la solution de paiement en crypto-monnaie de Salesforce. On a plusieurs applis live dessus. Bon, voilà. Et donc, on a commencé principalement avec le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, et on s'est rendu compte que ces outils-là étaient extrêmement utiles pour pouvoir créer des jeux de données, des datasets qu'on pouvait sécuriser et dont on pouvait garantir la non-altération, et aussi extrêmement utile pour pouvoir faire des réseaux de validation sur un cloud pour éviter que des attaques assistées par IA puissent pourrir un cloud ou puissent faire la sangsue, ou leech, je ne sais pas comment dire en français, mais pomper les informations depuis ce cloud. Et donc, la paranoïa des crypto-monnaies, finalement, était devenue un cas d'usage relativement intéressant pour l'IA. Ce que j'ai trouvé assez marrant, parce que en 3 ans, j'ai vu que ça évoluait. Au début, mes copains qui faisaient de l'IA me disaient « Ouais, vos escroqueries des crypto-monnaies, ça ne sert à rien. » Petit à petit, les mecs disaient « Ah, quand même, la décentralisation, avec beaucoup de gens qui sont paranoïaques sur le fait d'avoir une autorité centralisée qui pourrait être corruptible quand même dans le monde de l'IA, ça pourrait poser un problème. Votre truc de crypto, là, parle-moi de ça un peu, finalement. » Donc, c'est pas du tout de la même ampleur, hein, évidemment, hein, en termes de révolution sociétale. Les cryptos sont quelque chose de très silencieux et potentiellement révolutionnaire, mais très silencieux, là où l'IA, tout le monde en parle. Donc, voilà. Mais du coup, cette boîte-là donc, a eu aussi une sous-boîte qui s'appelle Formal Foundry, qui est une boîte qui fait de la sécurisation de données d'entraînement d'intelligence artificielle, et qui essaye aussi de limiter l'émergence de propriétés émergentes pour une IA, c'est-à-dire en gros faire en sorte que l'IA n'apprenne pas des choses qu'elle n'est pas censée apprendre. C'est très intéressant, mais quand tu entraînes un modèle de langage large, tu lui entraînes, d'un côté, tu l'entraînes à parler mandarin, et de l'autre côté, tu l'entraînes à parler anglais, et jamais tu lui as appris la correspondance, mais il finit par être capable de traduire. Et je peux être ouvert d'esprit sur la conscience des IA et sur leur intelligence un petit peu quand même, parce qu'on voit des choses très intéressantes, mais l'une des propriétés incroyables des réseaux de neurones, des IA modernes, c'est que elles peuvent généraliser leur savoir à d'autres situations pour lesquelles on ne les a pas entraînées. Et ça, c'est passionnant. Un peu inquiétant aussi dans certains cas où des vies humaines sont en jeu. Donc voilà, on travaille un peu là-dessus. C'est un sujet très anxiogène. Et la boîte que j'ai en France est beaucoup plus relaxe, puisqu'on fait plus de l'enseignement et on fait plus du consulting pour aider les entreprises. Donc, il y a des missions principalement de formation, mais il y a aussi des trucs du style bousiller l'IA du service client pour voir si on arrive à la manipuler et se faire rembourser 2 fois. Parfois, il y a de l'IA industrielle, du style fabriquer un RAG, une IA qui retrouve tous les documents correctement, ou alors aussi des trucs plus complexes, du style une IA qui va aller prendre toutes les données d'une entreprise, mais ensuite la connecter à une autre IA qui va faire des prédictions, puis ensuite revenir dans un CRM. Bon, là, ça devient vraiment le bordel et ça devient passionnant, mais c'est des cas d'usage business aussi. Donc, des cas d'usage business.
Mais oui, parce que tu disais, l'IA apprend capable de faire les connexions. Oui, elle prend en considération les éléments de contexte.
Oui, tout à fait.
Ce qui la rend effectivement capable d'adapter son apprentissage. Elle est capable de raisonner par analogie. Donc, partant de là, ça peut aller loin.
Tout à fait, tout à fait.
En apprentissage autonome.